Aujourd'hui, notre plongée nous emmène au cœur d'un secteur économique qui est fascinant et, pour être tout à fait honnête, souvent ignoré. On va décortiquer les dynamiques de l'importation et de la distribution de résines et de polymères techniques au Maroc.
Ouais, avec une ligne de mire très précise sur 2026 d'ailleurs.
Exactement. Et pour ça, on a épluché pas mal de données, dont un rapport super détaillé de monprojet.ma. Le but de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre comment on peut identifier une faille dans un marché qui est dominé par des géants mondiaux, et surtout comment on peut s'y engouffrer.
C'est ça, et avec succès de préférence.
C'est clair. Alors pour bien visualiser le problème, imaginons un instant un pays qui regorge des boulangeries les plus florissantes, les plus modernes du monde. Genre des files d'attente à n'en plus finir, des fours qui tournent à fond.
La belle image, ouais.
Sauf qu'il y a un hic. Ce pays, il ne cultive pas un seul épi de blé. Donc, pour cuire le moindre pain, il faut importer chaque grain de farine. Si on remplace les boulangeries par des usines et la farine par du plastique, on est exactement le paradoxe de l'industrie marocaine.
C'est vraiment une excellente comparaison pour poser les bases, en fait. Ce qui ressort du rapport et des données économiques qu'on a, c'est qu'il y a un déséquilibre structurel profond. D'un côté, on a une industrie de la plasturgie au Maroc qui est en pleine explosion.
Quand on dit explosion, on parle de quoi ?
On parle d'écosystèmes entiers, pas juste de deux ou trois usines isolées. L'automobile, par exemple, c'est gigantesque avec Renault, Stellantis. Et puis, on a aussi l'agriculture sous serre qui se modernise, le BTP, l'emballage. En fait, la demande industrielle en matière première, elle est juste vorace.
Vorace ? Comment ? Enfin, à quelle échelle on se situe là ?
Les chiffres sont colossaux. On dépasse les 500 000 tonnes consommées par an, avec une croissance super régulière qui oscille entre 4 et 6% chaque année.
Ah oui, quand même.
Ouais. Mais, et c'est là qu'est le fameux paradoxe, le Maroc n'a pas l'industrie pétrochimique locale pour produire ça. Donc la quasi-totalité des granulés plastiques, il faut l'importer d'Europe, du Moyen-Orient ou d'Asie.
Donc un gouffre gigantesque entre l'offre locale inexistante et une demande explosive.
C'est ça. Et c'est exactement là-dedans que se cachent des opportunités B2B vraiment remarquables. Pour ceux qui savent organiser cette chaîne d'approvisionnement, quoi.
Et c'est là que ça devient intriguant. Parce que honnêtement, quand on parle de faire traverser les océans à des centaines de milliers de tonnes de produits chimiques, on s'imagine que tout est verrouillé par des multinationales. Les documents citent Sabic ou Lyon-Delbazel. Comment un nouvel acteur, genre une petite structure indépendante, peut survivre face à ces titans ?
C'est le combat de David contre Goliath, on est d'accord ?
Mais avec des cargos de polymères.
Exactement. En fait, pour comprendre comment le petit acteur peut survivre, et même prospérer, il faut regarder le client final. Le tissu industriel marocain, c'est pas que des usines géantes. En réalité, 70% de ce tissu, ce sont des PME, des petites et moyennes entreprises.
D'accord.
Et ces PME, elles ont une douleur chronique, une douleur que les géants de la chimie ne cherchent même pas à soigner. Parce que les conglomérats, ils fonctionnent au volume brut, ils imposent des règles hyper rigides, des commandes minimum de 20 à 50 tonnes, des délais de 4 à 8 semaines.
Ce qui est énorme pour une PME.
C'est cauchemardesque.
Ouais.
Et en plus, le paiement est souvent étigé d'avance ou via une lettre de crédit hyper stricte.
Mais j'imagine bien. Commander 50 tonnes d'un coup, logistiquement et financièrement, c'est un mur.
C'est exactement le mot. D'abord, il faut l'espace, louer des hangars immenses juste pour stocker des sacs de granulés qui vont dormir là pendant 6 mois. Et financièrement, ça c'est de la trésorerie complètement immobilisée.
L'argent qui ne sert pas à payer les salaires ou à innover.
Voilà. Et c'est là que l'agilité rentre en jeu. Le petit distributeur va dire à ses PME, écoutez, n'immobilisez pas votre trésorerie, moi je stocke localement et je vous livre des petits volumes, genre 1 à 5 tonnes en 48 heures.
Ah d'accord. On remplace le navire cargo lointain par l'entrepôt du coin, toujours dispo.
C'est tout à fait ça.
Mais soyons un peu l'avocat du diable. Si je suis un de ces géants et que je vois une start-up me piquer mes clients PME, je baisse mes prix. Avec mes économies d'échelle, je peux absorber la perte, écraser le petit concurrent et on n'en parle plus. Comment le petit acteur résiste à une guerre des prix ?
C'est l'objection classique et c'est la crainte de tout entrepreneur. Mais dans le B2B, le prix brut du kilo, c'est qu'une petite partie de l'équation. La vraie bataille, elle est sur le coût total d'acquisition.
C'est-à-dire ?
Si le géant baisse son prix de 100%, mais qu'il existe toujours l'achat de 50 tonnes cash, la PME, elle a toujours pas l'argent sur son compte pour la passer cette commande.
Ah oui, le problème de trésorerie reste le même.
Exactement. Le petit distributeur agile, c'est un ballon d'oxygène. Il permet à l'usine de tourner en flux tendu, de payer juste ce qu'elle consomme la semaine même. Et pour cet oxygène, la PME, elle est tout à fait d'accord pour payer le kilo un peu plus cher.
Je vois. Donc le service justifie largement le petit écart de prix. Et d'ailleurs, le rapport mentionne aussi un rôle de conseiller technique. Ça marche comment sur le terrain ?
C'est le deuxième pilier de cette stratégie. Les géants vendent de la commodité par dizaines de milliers de tonnes. Leurs commerciaux, ils ne vont pas prendre l'avion pour visiter une usine qui fait 3 milliers de pièces à Kenitra.
Clairement pas.
Le distributeur local, lui, il y va. Il observe les machines, il parle au chef d'atelier. Et si, disons, une pièce de voiture sort du moule avec un petit défaut, il peut conseiller un autre grade de polymère, ajuster la résistance, la fluidité.
Ce que le géant ne fera jamais pour un si petit volume.
Absolument jamais.
Bon, alors, la stratégie est claire, flexibilité financière, petit volume, conseil technique. Mais passons aux chiffres, parce qu'il faut bien financer tout ça. Le report analyse deux scénarios d'investissement. Et c'est là que ça devient assez contre-intuitif. On a d'abord ce qu'ils appellent le scénario starter.
Ouais, l'approche d'entrée de gamme, on va dire.
Voilà. Ça coûte combien et ça ressemble à quoi ?
L'investissement de départ, c'est autour de 450 000 dirhams. C'est très frugal. On loue un petit entrepôt de 100 ou 200 mètres carrés, on achète un utilitaire d'occasion pour livrer, et surtout, on achète un stock de base de 15 à 20 tonnes de plastique dit « commodité ».
Justement, pause vocabulaire. Les sources parlent de PET, de PVC. C'est quoi concrètement dans la vie de tous les jours ?
Le PET, pour faire simple, c'est le plastique transparent des bouteilles d'eau minérale.
OK.
Et le PVC, c'est ce plastique dur, souvent blanc, qu'on voit dans le bâtiment. Les tuyaux, les cadres de fenêtres. C'est des matières hyper courantes, tout le monde sait les utiliser, ça demande aucun conseil technique poussé.
D'accord, donc on loue un entrepôt, on prend un vieux camion, on achète du plastique pour faire des tuyaux. Qu'est-ce que ça rapporte au final ?
C'est solide, mais fin. En ciblant une quinzaine de PME, on peut viser une marge nette entre 8 et 12%. C'est un revenu régulier. La rentabilité arrive en 10 à 14 mois. C'est l'approche prudente. Mais le rapport insiste beaucoup sur le deuxième modèle, le scénario avancé.
Et là, l'investissement, c'est une autre histoire. On parle de 1 800 000 dirhams. C'est 4 fois plus cher. J'imagine qu'on ne vend plus du plastique pour bouteille d'eau avec ça.
C'est clair. À ce niveau-là, on a un grand entrepôt, un véhicule neuf, des commerciaux, et on rentre dans les polymères techniques de spécialité. Le PA6, l'ABS, le POM.
Traduction, s'il vous plaît. C'est quoi qui rend ces plastiques si spéciaux pour justifier un tel investissement ?
C'est de la haute ingénierie. Prenez l'ABS, par exemple. C'est ultra résistant au choc. Si on a déjà marché pieds nus sur une brique de Lego, on connaît l'ABS.
Ah oui, la fameuse douleur du Lego.
Ni de nylon qui résiste à des chaleurs extrêmes, parfait pour les pièces moteurs. Et le POM, c'est une résine avec un frottement très faible pour les minuscules engrenages de précision. Bref, on est dans la haute technologie.
Donc ça change totalement l'approche de vente. On ne pose pas juste un sac de PA6 en 10 ans. Salut !
Exactement. Il faut une vraie expertise, comprendre les contraintes de température, de pression de l'usine. Et comme cette expertise est rare, bah la marge brute s'envole. On parle de 18 à 25%.
Et c'est là que l'analyse m'a surpris. L'investissement est 4 fois plus élevé, mais le délai de rentabilité est plus court. 8 à 12 mois.
Ouais, les marges de ces spécialités compensent largement le coût de départ.
En fait, si on fait une analogie pour que ce soit limpide, c'est comme la restauration. Le scénario starter, c'est la brasserie de quartier qui vend des frites.
Les frites étant le PVC, du coup.
Voilà. Il y a de la demande, c'est facile, ça paye le loyer, mais la marge sur des frites, bon, ça va pas chercher loin. Le scénario avancé, c'est engager un grand chef, refaire la cuisine et vendre un plat signature hyper complexe avec des ingrédients rares. Ça coûte une fortune à lancer, mais la marge sur ce plat signature, elle est spectaculaire.
L'analogie est parfaite. Et j'ajouterais même un truc. En vendant ces polymères complexes, l'entreprise change de statut. Elle n'est plus juste un fournisseur qu'on peut remplacer en un claquement de doigts. Elle devient un partenaire stratégique.
Ah, intéressant.
Ouais. Si une ligne de production automobile s'arrête à cause d'une résine, le directeur ne va pas appeler le gars qui vend des frites. Il va appeler son expert technique pour trouver la solution. Et ça, ça fidélise sur des années.
La théorie tient complètement la route. Mais bon, il y a un gouffre entre un fichier Excel et le monde réel. Monter une chaîne logistique entre l'Allemagne et Tanger, c'est un champ de mine. Le rapport dit qu'on peut lancer ça en 6 mois. Concrètement, c'est quoi les étapes et surtout les pièges ?
Les trois premiers mois, c'est une course entre la montre administrative. Création de la SARL, ça c'est classique, pour protéger le patrimoine. Mais le vrai parcours du combattant, ce sont les autorisations sur la plateforme rocas.ma. Et là, gros point bloquant. Il faut souvent se déclarer comme courtage de produits chimiques.
C'est fou cette classification. Un courtier, en général, c'est un intermédiaire. Il ne touche pas la marchandise. Là, on stocke physiquement des tonnes de granulés.
C'est les joies de la nomenclature administrative. Le terme « produit chimique », c'est un grand fourre-tout juridique. Si l'entrepreneur se trompe de case, son dossier peut être bloqué des mois par l'inspection de l'environnement. C'est le premier gros piège. Et en même temps, il faut gérer le sourcing, trouver des fournisseurs et négocier les fameux incoterms.
Le jargon international par excellence. Les incoterms, c'est quoi exactement pour ceux qui découvrent ?
C'est les règles internationales qui définissent qui paye quoi et qui est responsable de quoi pendant le transport. C'est comme décider à l'avance qui paie si le livreur casse votre télé dans l'escalier.
Très clair.
Est-ce que l'Allemand paye jusqu'au port de Hambourg ou jusqu'à Casablanca ? Si le conteneur coule pendant une tempête, l'incoterm dit instantanément qui absorbe la perte. Si c'est mal négocié, l'importateur peut se prendre des frais de douane surprise qui ruinent tout.
Une fois que la paperasse est réglée, les mois 4 à 6, c'est pour le marketing B2B. Et là, grosse surprise dans les sources, l'utilisation intensive de LinkedIn. Franchement, vendre du plastique industriel sur un réseau où les gens partagent des conseils de management, ça paraît lunaire.
Lunaire, mais hyper efficace en fait. L'acheteur B2B moderne, le responsable de prod à Kenitra, il n'attend plus le commercial devant sa porte. Il est sur LinkedIn pour suivre le cours du pétrole, les nouvelles résines. Si le distributeur pose des analyses techniques pointues, bah, il devient une autorité dans son domaine.
Et au moment de la commande, on pense à lui.
Exactement.
Par contre, l'écran ne fait pas tout. Le marketing terrain reste indispensable. Mettre des échantillons dans le coffre et faire la tournée des zones industrielles.
Ah oui, c'est non négociable. Le digital, ça prend le rendez-vous, mais la décision, elle se prend au pied de la machine. L'ingénieur veut voir les granulés fondre dans sa propre extrudeuse pour voir comment la matière réagit.
Bon, ça nous fait une belle feuille de route. Mais abordons le sujet qui fâche, les risques mortels pour le business. Qu'est-ce qui peut détruire ce modèle économique-là ?
La menace la plus invisible, mais la plus foudroyante, c'est le risque de change.
Comment ça fonctionne, concrètement, la mécanique destructrice-là ?
C'est simple. L'importateur achète en Europe, en euros ou en dollars, mais il revend à ses clients marocains, donc il est payé en dirhams.
D'accord.
Imaginons qu'on signe pour 20 tonnes en Europe avec une marge prévue de 5%. Mais on paie le fournisseur à la livraison, dans 3 mois. Si entre-temps, le dirham perd 6% face à l'euro, bah, la marge de 5% est engloutie. On vend à perte alors qu'on n'a fait aucune erreur commerciale.
C'est terrifiant. On est à la merci des marchés mondiaux. C'est quoi la parade ?
Les contrats à terme. La banque gèle le taux de change du jour pour la transaction prévue dans 3 mois. Ça coûte des frais bancaires, bien sûr, mais ça sécurise mathématiquement le coût de revient.
C'est indispensable, ouais. Ensuite, il y a le risque lié à la matière elle-même, qui vient du pétrole. Le cours du baril, c'est des montagnes russes. Si j'achète plein de stocks et que le pétrole s'effondre juste après, je dois vendre à perte pour rester compétitif avec les nouveaux arrivages. Le surstockage, c'est mortel.
C'est la faillite assurée, ça. L'antidote, c'est la gestion en flux tendu. Faut vraiment résister aux fournisseurs qui proposent des remises sur les commandes géantes. Mieux vaut acheter par petites quantités, souvent, pour coller au prix actuel du marché.
Dernière grosse menace, la bête noire du B2B, la facture impayée. L'usine cliente fait faillite, elle nous entraîne avec elle. On se protège comment ?
L'assurance crédit. C'est un service externe. Avant de livrer, on soumet le nom du client à l'assureur qui enquête sur lui. S'il donne le feu vert, l'assureur garantit une grosse partie de la facture en cas de pépin. Ça grignote un peu la marge, mais c'est le prix de la survie.
C'est fou ! Quand on rassemble tout ça, cette analyse nous montre que l'importation de polymères, c'est pas juste triballer du plastique. C'est une vraie masterclass de stratégie B2B. On identifie un public, les PME, qui est négligé par les mastodontes, et on répond par l'agilité, la proximité et le conseil. On n'essaye pas d'être plus gros, on est juste plus malin.
Exactement. Dans l'industrie lourde, s'intégrer intimement dans la chaîne de production du client, ça voit toutes les guerres de prix du monde.
Mais et c'est là-dessus qu'on va clore notre réflexion. La fin du document apporte une perspective assez vertigineuse sur la transition écologique. Avec les normes environnementales, il y a une vraie tendance pour les plastiques recyclés ou biosourcés.
Ouais, c'est un mouvement de fond.
Aujourd'hui, l'importateur, il est roi. Parce que la matière vient du pétrole, extrait et transformé très loin. Mais si demain, on remplace ce pétrole par des déchets plastiques locaux à recycler ou des matières agricoles, est-ce que ce grand modèle mondialisé a encore un sens ?
C'est la grande question, oui.
On pourrait assister à un renversement total, où chaque pays se met à exploiter ses propres mines urbaines de déchets. Et les rois de l'importation d'aujourd'hui devront peut-être devenir les experts du recyclage ultra-local de demain pour survivre. C'est une sacrée évolution industrielle à garder en tête.
Absolument, un vrai changement de paradigme.